Chapitre 4. Ce soir-là, il faut l'avouer, Manuel songeait moins à Jonquille que Jonquille à Manuel. Tandis qu'assise dans sa barque, elle s'inquiétait à son sujet, il suivait lentement la file de ses compagnons, absorbé tout entier par les difficultés de la route et par un désir extrême de se distinguer dans cette première épreuve. Le couloir qu'il gravissait était escarpé comme un toit, inégal, encombré d'arbustes et de longues herbes traînantes, et sillonné au milieu par une ravine qui avait mis le roc à nu. Chaque homme, courbé sous sa charge, affermissait prudemment son pied sur la marche raboteuse que notre pied venait de quitter, puis il se hissait en s'appuyant sur son bâton. On montait en zigzag, lentement, sans le moindre bruit. Le guide connaissait par cœur tous les dangers de cette vertigineuse échelle. Il savait quelles étaient les saillissures de la roche et faisait onduler à droite ou à gauche, sans la moindre hésitation, la file silencieuse qu'il dirigeait. Au bout de 10 minutes, le mot « halte » passa de bouche en bouche comme un murmure discret. Chacun s'arrêta court en enfonçant son bâton dans le sol. Manuel n'était point fâché de reprendre haleine. Une légère émotion faisait battre son cœur trop vite et rendait son souffle plus court qu'à l'ordinaire. Ôtant son chapeau, il essuya du revers de la main la sueur qui mouillait son front. La nuit était fraîche, l'air léger, mais l'effort qu'exigeait une montée aussi raide était considérable. La jambe et le pied, se sentant mal affermis sur des rebords trop étroits ou sur les blocs vacillants, se crispaient instinctivement à chaque pas et la tension des muscles en était doublée. Manuel, sans remarquer que ses compagnons, immobiles, tournaient uniformément la tête du côté de la montagne, assura son point d'appui et se pencha pour embrasser d'un coup d'œil le chemin parcouru. À droite et à gauche, le profil des roches se découpait nettement, couronné d'arbrisseaux dont les branches s'entrecroisaient en 1000 traits noirs capricieux. Au-dessous, un entonnoir plein d'ombre allait en se rétrécissant. Tout au fond, l'eau noire, sinistre, méchante, scintillait vaguement. Manuel se rejeta brusquement en arrière, une nausée lui serra la gorge, un vertige lui voila les yeux. L'attraction du vide avait failli le saisir. Pourtant, il avait la tête solide à l'ordinaire, mais il s'était cru debout sur la margelle d'un puits béant. À force de zigzag, il s'était imaginé changer de direction et la vue du couloir, dévalant à pic dans la rivière comme une cheminée, l'avait pris par surprise. Le bruit d'un petit caillou détaché de la pente et qui roulait par saccades éveilla son attention. Il en suivit de l'oreille à la chute accélérée qui finit par un clapotis à peine perceptible. « Veille à tes pieds, mon gars !» se dit-il avec un léger frisson. « Un faux pas et tu roulerais tout droit dans l'eau. » La colonne se remit en marche. À mesure qu'il s'élevait, le chemin devenait plus raide, les arbustes étaient moins nombreux, la ravine avait creusé plus profondément et emporté toute la terre végétale. À la clarté vague qui tombait des étoiles, on pouvait distinguer les anfractuosités du roc, mais confusément et sans que le pied osât se fier aux indications de l'œil. Chaque saillie projetait une ombre épaisse qui lui donnait un relief excessif et un faux air de marche d'escalier. Manuel ne regardait plus autour de lui. Penché vers la côte, il mettait toute son intensité de regard et d'attention à suivre les mouvements de l'homme qui marchait devant lui. Comme il arrive généralement en pareil cas, la gravité même de la situation, en absorbant les facultés, chassait la crainte. Tout l'être de Manuel se concentrait en ce moment dans sa prunelle dilatée et dans son pied qu'un ressort semblait tendre et détendre à chaque pas. Il se mouvait en mesure, mécaniquement, son souffle même avait quelque chose d'automatique. La courroie qui soutenait son fardeau lui meurtrissait l'épaule, mais il ne songeait pas à en défaire la boucle trop serrée, suspendu qu'il était à toutes les évolutions de son voisin et les imitant comme une ombre. Tout à coup, Firmin, qui marchait derrière Manuel et fermait la colonne, se mit à siffloter entre ses dents une mélodie banale, « Au clair de la lune » ou bien « Ah, vous dirai-je, maman !» Ce bout de chanson, qui dénotait une parfaite liberté d'esprit, tira Manuel de son accès de quasi-somnambulisme. Il eut honte de s'être laissé enchaîner à ce point par une situation dont il s'exagérait peut-être le péril. Il se redressa et jeta derrière lui un regard ferme que le vertige ne troubla point cette fois. Le mot de halte passait de nouveau le long de la file, il fallait rassembler ses forces pour le dernier coup de collier. Le plus difficile restait à faire. Une muraille abrupte de 40 pieds de hauteur fermait le couloir au sommet. Deux corniches inégales couraient obliquement sur sa surface qu'elle divisait en trois étages, chacune formant un replat où l'on pouvait prendre pied. Il eût suffi de quelques marches profondes taillées dans le rocher pour faire un jeu de cette escalade. Mais des entailles trop distinctes auraient attiré l'attention des douaniers qui croyaient ce passage impraticable et ne songeaient pas même à le surveiller. Les contrebandiers s'étaient bornés à enfoncer ici et là, sous les touffes d'herbe, quelques solides crampons de fer où le pied et la main trouvaient tour à tour un point d'appui. Comme le poids d'un sac sur les épaules eût rendu cette gymnastique aérienne plus périlleuse encore, chacun déposa sa charge au pied du rocher. Le guide grimpa le premier. Il avait fait 100 fois cette ascension et fut en un clin d'œil sur la corniche inférieure. Là, se retenant d'une main au crampon, il se pencha en arrière et saisit le bout de son bâton qu'on lui tendait d'en bas et auquel son paquet était solidement lié. Un second contrebandier fit de même, puis un troisième. Manuel, qui était de nature un grimpeur et avait escaladé les plus hauts sapins, ne fut pas embarrassé quand son tour arriva. Firmin Mitou, le dernier en rang, tendit son bâton à Manuel avant de monter. En moins de 5 minutes, tous les hommes étaient alignés sur la corniche, reprenant haleine pour commencer l'assaut du second gradin. Le cœur de Manuel Vincent battait fort, mais ce n'était plus de crainte. L'ivresse du danger le faisait bondir. Immobile, le front appuyé au rocher, le jeune homme sentait ses muscles se tendre et frémir, son sang coulait plus vite, ses tempes marquaient distinctement chaque pulsation. Ses idées étaient nettes, il sentait l'abîme derrière lui, il calculait froidement toutes les chances et cherchait de la main une fissure où il put appuyer le bout de son pied avant d'atteindre le second crampon. Sentant qu'une branche de ronce qui pendait risquait d'accrocher sa blouse, il prit son couteau dans sa poche, l'ouvrit avec ses dents, car l'autre main ne pouvait quitter son point d'appui et coupa tranquillement la branche. « En avant !» dit le guide à voix basse. Et l'escalade recommença dans le même ordre, avec une sûreté de mouvement qui prouvait une longue habitude. Tout à coup, comme le troisième contrebandier venait d'atteindre la corniche et qu'on lui tendait sa charge, le paquet, trop lourd ou mal assujetti, se détacha au moment où le bâton décrivait une courbe dans l'air juste au-dessus de la tête de Manuel. L'homme lâcha un juron, toute sa peine de la nuit était perdue. Mais Manuel étendit le bras et saisit le paquet au vol. Ce brusque mouvement lui fit perdre l'équilibre et le jeta violemment en arrière. Par bonheur, sa main gauche ne lâcha pas le crampon autour duquel elle se crispait. Ses talons furent aussi retenus par une anfractuosité de la roche. Il oscilla pendant quelques minutes au-dessus du vide, mais par un robuste effort des reins et du poignet, il reprit enfin la position verticale. Il n'avait pas poussé une seule exclamation d'effroi pendant cette terrible minute, mais il vibrait de la tête aux pieds comme une corde qu'on vient de tordre violemment. Ayant raffermi ses pieds sur la corniche, il rendit le paquet à son propriétaire. « Bien obligé !» fit celui-ci. Firmin Mitou grommela une parole d'approbation. Son estime pour le nouveau avait cru d'une coudée. Une bouffée d'orgueil triomphant enivra Manuel pendant une minute, mais comme il se tournait du côté de Firmin, il vit que celui-ci, aussi à l'aise que sur une grande route, profitait de cet instant de loisir pour allumer sa pipe éteinte qui n'avait pas quitté le coin de sa bouche depuis le commencement de l'expédition. Cette indifférence, qui n'était point une fanfaronnade, montra à Manuel quelle distance existait entre son genre de courage et celui de Mitou et calma aussitôt son orgueilleuse satisfaction. Le dernier gradin restait à franchir. un nouvel effort, et bientôt gens et marchandises, les uns hissant les autres, parvinrent sains et saufs au sommet du rocher, sur une petite pelouse bornée par une bande de forêt. Une gourde circula dans le groupe, puis on se sépara en deux détachements qui devaient, pour plus de sûreté, traverser le bois par des sentiers différents et se rejoindre au prochain village. Manuel et trois autres contrebandiers s'engagèrent sous les arbres. Il y faisait noir et étouffé comme dans un four. Les arbustes aux contours vagues ressemblaient à des espions blottis au bord du sentier. À chaque craquement des branches sèches sous ses pieds, Manuel s'attendait à voir quelque forme se dresser et lui courir dessus. Tout à coup, un appel retentit à 100 pas derrière eux. « Hé, hé, arrêtez !» Les gabelous, chuchota un des gars à son oreille. « Sauve qui peut !» Ils se mirent tous à courir. Cependant, les cris d'appel se rapprochèrent. « Nous sommes flambés !» dit le premier de la bande en s'arrêtant. « À bas la marchandise !» Chacun jeta sa charge dans le sentier, tandis que Manuel, indigné d'une si piètre défense, fixait sur eux des yeux étincelants. « Mazette ! » fit-il en serrant les dents. « N'avez-vous pas honte ? Reprenez vos paquets et sauvez-vous. Moi, je me charge d'arrêter les douaniers pendant 5 minutes. » Aussitôt, il se campa au milieu du sentier, faisant le moulinet avec son bâton. Une forme noire parut sous les arbres, criant « Halte !» d'une voix impérieuse, puis se jeta sur Manuel. Celui-ci se dégagea par un brusque mouvement d'épaule, saisit l'homme au collet et, le tenant à bras tendus, le secoua avec une belle énergie. « Tout doux, tout doux !» cria le douanier en éclatant de rire. C'était la voix de Firmin Mitou. Manuel cessa de le secouer, mais lui tenant toujours l'épaule serrée comme dans un étau, il le considéra d'un air soupçonneux. « As-tu fini ?» « Lâche-moi donc !» s'écria Firmin. « C'était une frime, comprends-tu? Avant de te donner la collade, on voulait voir si tu caponnerais dans une bagarre, mais tu t'es bien montré. Voilà les compagnons qui reviennent. » En effet, les trois contrebandiers s'approchaient en riant. Ils se moquèrent de Manuel pour s'être laissé attraper à cette comédie, mais au fond, ils étaient contents de lui. Afin de regagner le temps perdu, ils prirent un pas de course qui les amena en moins d'un quart d'heure au prochain hameau. Dans une maison basse, séparée du chemin par un petit jardin, on voyait une lumière briller au rez-de-chaussée, derrière les volets. Un gros chien sortit de sa niche et vint, sans aboyer, flairer les jambes des arrivants. Firmin toussa et gratta la porte, qui s'ouvrit aussitôt. Toute la bande entra. Les hommes du premier détachement étaient là, groupés dans une pièce spacieuse et mal éclairée qui tenait de la boutique et de la cuisine. Sur le comptoir étaient posés des verres à liqueur déjà vides. Les nouveaux arrivants furent salués avec de grandes démonstrations par le maître de séance, un petit homme à mise chafouine, surmonté d'un bonnet de drap à longs glands qui pendait sur l'oreille. Firmin Mitou, toujours pressé de mettre à l'air sa verve d'orateur, raconta aussitôt l'épreuve qu'on venait de faire subir à Manuel et la façon honorable dont il s'en était tiré. Les autres haussèrent les épaules, ils avaient fait mieux que cela à leur début. Cependant, ils ne refusèrent pas de boire à la santé du nouveau. Le temps pressait, la besogne de la nuit n'était terminée que pour quelques-uns qui avaient leur domicile dans ce hameau et laissaient leur charge de tabac au petit épicier. D'autres devaient livraison de leurs marchandises dans un village plus éloigné. Firmin Mitou et Manuel, enfin, chargés de quelques douzaines de montres, avaient encore 3 lieues à faire. Ils se mirent en route à minuit. À quelque distance du hameau, ils furent rejoints par un char à bancs dont le conducteur leur offrit obligeamment une place derrière lui. C'était un bon garçon, un peu simple, que Firmin Mitou connaissait bien. Il le régala d'histoires fantastiques qu'il n'avait jamais trouvé si commode auditeur. Manuel s'en amusa d'abord, mais leurs étonnantes péripéties se fondirent bientôt pour lui dans un brouillard toujours plus épais qui devint un profond sommeil. Au bout d'une heure, son compagnon l'en tira en le secouant avec énergie. Il fallait prendre à travers bois un chemin qui devait les conduire à leur destination. Manuel avait dormi si lourdement qu'après 20 minutes de marche, il n'était pas sûr d'être complètement réveillé. Ses idées engourdies flottaient encore dans une région vague où tous les événements de la nuit se confondaient. Un écho des chansons de Jonquille tintait dans ses oreilles. Bien que la route fût plate comme une carte, il s'imaginait gravir encore un couloir escarpé et lever le pied avec un immense effort. Il lui semblait avoir des semelles de plomb. Ses paupières se fermaient malgré lui. Par moments, il dormait tout debout. Firmin riait de cette torpeur, il s'amusait à faire tressaillir Manuel en lui frappant sur l'épaule. « Allons, mon vieux, secoue-toi. Ta conversation manque de charme. Tu n'es qu'une panosse après tout. Voyez-moi, un gaillard de 5 pieds 6 pouces, incapable de veiller 1 heure après minuit. Un peu de courage, 1000 pipes de contrebandier. Dans un quart d'heure, on mettra le cher petit dans son lit, on le bordera bien et on lui fera boire une tasse de lait chaud. » Manuel, vexé de ses grosses railleries, essayait en vain de secouer l'engourdissement qui lui cassait les jambes et lui embrouillait le cerveau. Le dernier quart de lieue lui parut d'une interminable longueur. Les sensations bizarres de cet état, qui n'est ni la veille ni le sommeil, remplissaient sa tête de fantasmagories. Il lui semblait par instants marcher sous un été noir de plomb qui l'étouffait et lui écrasait les épaules, puis il perdait le fil de ses idées pendant 1 minute et le cherchait vaguement. Quand, par un énergique effort, il ouvrait les yeux tout grands, il voyait des points de feu papillonner autour de lui. « Pourquoi la ville est-elle illuminée ? » fit-il de cette voix sans intonation qu'on a en rêve. « Hein ? Quoi ? » dit Firmin. Manuel se réveilla tout à fait. L'illumination s'éteignit et il ne vit plus que la route longue, longue, qui s'étendait devant lui comme une ligne vague et blanchâtre au milieu des champs enténébrés. Combien de fois encore faudrait-il mettre un pied devant l'autre avant d'arriver ? Une, deux, trois ! Une, deux, trois ! Marchez, conscrits ! Disait Firmin pour l'encourager. Enfin, ils atteignirent le but au moment où Manuel rêvait qu'il était le juif errant et cherchait à se rappeler quel crime lui avait valu cette terrible expiation. Firmin Mitou, qui avait un logement dans la petite ville où ils arrivaient, conduisit Manuel dans sa propre chambre, le persuada non sans peine de se déshabiller avant de se mettre au lit, puis, le voyant profondément endormi, avant même qu'il eût posé la tête sur l'oreiller, Firmin se prépara un grog, fort comme de la poudre à canon, et se mit à lire Monte Cristo. Quand Manuel se réveilla, il avait dormi 8 heures sans changer de position, sans remuer un doigt seulement. Il se frotta les yeux. La chambre, à lui inconnue, était vide. Il allait prononcer le célèbre et traditionnel « Où suis-je ?» quand la porte s'ouvrit et livra passage à Firmin Mitou, portant une cafetière et un pot de lait. « Ça va, mon brave, tu pionçais de solide façon quand je suis sorti ce matin. Notre marchandise est livrée, j'en ai reçu remboursement. Tu porteras les espèces à notre sieur Constant Loison. N'oublie pas toi-même de te faire payer. Là-dessus, lève-toi, pendant que je vais acheter du pain pour notre déjeuner. » Manuel se leva, tout ragaillardi, sans aucune trace de fatigue. Ses membres avaient repris leur souplesse accoutumée. Mettant la tête à la fenêtre, il fut très surpris de surplomber la rue de 3 étages. Il ne put jamais se rappeler comment, la veille, il avait gravi ces 3 rampes d'escalier. Firmin Mitou ne se fit pas faute de plaisanter Manuel sur le talent tout spécial qu'il avait de dormir en marchant. Le jeune homme en fut très humilié, il essaya de faire comprendre à son hôte que les émotions nouvelles et diverses de la journée précédente l'avaient accablé pour le moins autant que la fatigue de la nuit. Mais c'était une piètre fin pour une expédition glorieuse en somme. Manuel se promit une revanche à la prochaine occasion. Firmin Mitou lui conseillait de prendre la poste pour retourner chez lui, craignant, disait-il, que Manuel ne s'endormît en route et ne marchât tout droit dans la rivière. L'objet de ces facéties, que leur auteur trouvait très plaisante, secoua les épaules avec impatience et partit à pied d'un air très résolu et parfaitement réveillé. Les 3 lieues qu'il avait à faire lui parurent courtes car son esprit était préoccupé. Arrivé chez lui, il n'y trouva personne et reprit machinalement le chemin de la fabrique. La grande porte d'entrée était fermée depuis une heure, mais Manuel avait des accointances avec le chauffeur de la machine qui lui ouvrit une porte de derrière. Il entra doucement dans la salle et, sans éveiller l'attention du contremaître qui avait le dos tourné, il se glissa à sa place. Constant Loison leva les yeux. Penché sur son établi, en blouse propre et faux col immaculé, la lime à la main, le microscope fixé devant l'œil droit par un cercle de fil de laiton qui lui saignait la tête, il représentait l'ouvrier horloger le plus assidu et le plus correct, qui eût jamais édifié par sa présence une salle de fabrique. Ce n'est pas lui qui eût couru la prétentaine toute la nuit, dormi la grasse matinée et entamé son après-midi de travail. « D'où viens-tu comme ça? Tu as l'air en capilotade. »« Fameuse noce, hein? Mauvais sujet » fit-il à demi-voix, mais très distinctement, afin que son voisin de gauche comprît bien qu'il était innocent des écarts de Manuel et que, même, il réprouvait fortement. Manuel ne répondit rien, mais, en s'asseyant, fit sonner le petit sac d'écu qu'il avait dans sa poche. « C'est pour toi, cet argent, » dit-il. Constant Loison fronça les sourcils pour lui enjoindre de se taire, mais durant tout l'après-midi, ses pensées voletèrent autour de la poche de Manuel, caressant à l'avance les beaux écus qui sonnaient clairs, les palpant, calculant leur nombre et en faisant une jolie petite pile bien ronde qui allait s'aligner dans une cassette à côté des autres. Il faudrait pourtant en déduire la paix des contrebandiers. Ah, les frais de l'entreprise étaient considérables et pour ces gars prodigues et imprévoyants, tout le gain s'en allait à la boisson et au jeu quand ce n'était pas à acheter des fichus jaunes pour Jonquille. Qu'ils nous laissent tranquilles avec leurs cadeaux. Je saurais bien, moi, fournir Jonquille de fichus et de rubans tout en l'engageant à être plus soigneuse. À quoi bon porter un foulard de soie tous les jours? On a même vu autour de son cou un fin crêpe de Chine couleur prime vert qui a coûté 10 francs. Pour le dimanche, passe encore, mais les autres jours, un mouchoir de coton est beaucoup plus convenable. Ainsi, Constant Loison discourait avec lui-même, tandis que Manuel se morfondait d'ennui et faisait de plus mauvaises besognes qu'à l'ordinaire. La chaleur était excessive, orageuse, les nuages lourds se traînaient dans le ciel. Un air épais, chargé de somnolence, remplissait la salle. Manuel se redressait de temps en temps pour respirer à bouche ouverte, mais il se demandait avec dégoût de quel miasme il remplissait ses poumons. Ah, qu'une bouffée d'air de la rivière lui rafraîchit, même accompagnée de cette odeur de poisson qui s'y mêle dans les jours d'été. Ses pensées retournaient constamment aux scènes de la veille et bourdonnaient autour de la maison de Jonquille comme un essaim d'abeilles autour de la ruche. Sans y songer, il fredonnait entre ses dents le refrain de la chanson des contrebandiers. « À nous, bonheur et richesse, le peuple à nous s'intéresse, il est partout de nos amis. »«
Silence, là-bas » cria le contremaître. « Qui est ce rossignol ?»
Constant Loison était devenu pâle, cette chanson pouvait être fort compromettante. Ah, que Manuel était donc un associé maladroit! Cependant, le silence s'était rétabli. Manuel, les yeux vaguement fixés sur son ouvrage, suivait le cours de sa rêverie. « À quand la prochaine ? » fit-il tout à coup en se tournant vers Constant Loison. Celui-ci tressaillit, poussa son outil dans une fausse direction, ce qui endommagea la petite roue mince et délicate qu'il ajustait. Un juron très bien articulé lui échappa. « Je te chasserai d'ici si j'étais le maître » fit-il en lançant à Manuel un regard furibond. Bien obligé, je ne demanderai pas mieux. » Ici, le surveillant leur imposa de nouveau silence et jusqu'au soir, Manuel n'ouvrit plus la bouche. Constant Loison regrettait son accès d'humeur. Il estimait très haut la sagesse du proverbe qui dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et il tenait à être toujours dans les meilleurs rapports avec les gens dont il pouvait avoir besoin. Après le souper, donc, quand l'heure de la pipe et de la causerie fut venue, il se montra ultra gracieux et pria Manuel de lui conter par le menu ses aventures de la nuit précédente. Quand il sut que tous les colis avaient été remis en bonne main, il poussa un soupir de satisfaction. « Avec toi, mon garçon, la chance nous est revenue. Est-ce que le cœur t'en dit de recommencer ?»« Quand ?» fit Manuel vivement. « Demain, après-demain, quand tu voudras. Nous avons encore tout un stock chez la mère Salomé, comme tu as vu. Vous pourriez vous arranger à trois, cela ferait une gentille petite partie. Je ne demande pas mieux que de t'employer au moins 4 nuits par semaine. Mais il faut te ménager, mon brave. Gageons que tu n'y penserais pas. Moi, j'y songe pour toi. » Son ton débordait d'affectueuse sollicitude. Il passa doucement la main sur le dos de Manuel, comme s'il se disait « Quel bon dos, large, robuste, quel excellent dos pour transporter mes paquets de tabac et mes caisses de montre !» Manuel le repoussa brusquement. Il n'aimait pas à être caressé comme un cheval. Constant reprit, sans s'offenser de ce mouvement qui trahissait une certaine répulsion, « Le hic, c'est que tu ne saurais être ponctuel à l'ouvrage avec ce métier d'oiseau de nuit. Après 3 ou 4 absences, tu recevras ton sac. » « Tant mieux pour moi et pour toi aussi, pas vrai ?» dit Manuel qui se mit à rire. La petite diplomatie de son compagnon le divertissait. « Tes malices sont cousues de gros fils blancs, » reprit-il. « J'ai donc l'air bien niais que tu crois m'attraper comme ça. Si tu y allais de franc jeu, nous nous entendrions plus vite. » « Manuel, » s'écria Constant Loison avec une solennité extraordinaire, « je ne veux que ton intérêt. » S'il est le même que le mien et qu'on puisse faire d'une pierre 2 coups, quel inconvénient y vois-tu ? Pas le moindre, va toujours, mais en ligne droite. À la fabrique, tu finiras par nous compromettre tous deux. Tous deux, entends-tu ? Pourquoi ne pas te lancer dans une nouvelle carrière où le plaisir ne te manquera pas, ni l'argent non plus ? En 4 nuits, tu gagneras autant qu'à la fabrique en 1 semaine et tu te reposeras le reste du temps. « Le profit est de ton côté, me semble-t-il. » Manuel ne répondit pas. Il regardait les gros nuages couleur d'encre qui assombrissaient le couchant. Parfois, la lueur rapide d'un éclair y palpitait, mais sans qu'on entendît le moindre éclat de tonnerre. « L'orage s'éloigne, dit-il. Il suit la rivière. On est bien seul au fond de ses gorges. Si la foudre tombait sur la maison... » De Jonquille, interrompit Constant, dont les joues blêmes se couvrirent aussitôt d'une rougeur de brique, peu agréable à voir. « Qu'est-ce qui te prend de songer à elle en 7 minutes ? Ne va pas t'amouracher de la petite, je ne te dis que ça !» Il se rapprochait de Manuel et le regardait dans le blanc des yeux. Son premier geste avait été presque menaçant, mais il se ravisa et reprit, les mains croisées derrière le dos, pour réprimer quelques mouvements trop vifs. C'est un conseil d'ami que je te donne. Jonquille ne te fera que des chagrins. D'ailleurs, elle sera à moi. » Manuel tressaillit, ouvrit la bouche comme pour protester ou questionner, mais, tout bien considéré, se tut. « Je demanderai à Jonquille si cela est vrai, » pensa-t-il.